On va parler de main verte à présent, de jardin avec vous Alain Baraton. Il est 7h44.
France Inter, le 6-9 du week-end.
Alain Baraton, à propos des mahonias, ce sont des arbustes à feuilles piquantes.
Eh oui, des feuilles qui sont aussi d'ailleurs persistantes, pratiques quand on veut se protéger des regards à l'automne ou masquer une vue disgracieuse. Les mahonias sont aussi appréciés pour leur floraison odorante, une floraison qui peut être tardive, comme avec la variété X Media Charity, qui produit des fleurs qui embaument en hiver, mais alors délicieusement. Enfin, les mahonias appartiennent à la famille des berbéridacées, la famille des berbéris.
Les berbéris, d'ailleurs, les mahonias ont longtemps été confondus avec berbéries et mahonias, on a confondu un peu les deux.
Eh oui, c'est exact. C'est un Anglais né en 1786, Thomas Nuttall, qui le premier explique que les deux plantes sont distinctes et que même si elles ont des similitudes botaniques, leurs feuilles ne se ressemblent pas. Curieux bonhomme que ce Thomas Nuttall. Son premier métier est imprimeur, mais après s'être fait pas mal des nuits en Angleterre, il décide de partir s'installer aux États-Unis. Une fois sur place, il rencontre quantité de scientifiques. Il se prend de passion pour la flore et la faune. Il deviendra l'un des plus grands spécialistes américains de ce genre.
Et donc, c'est cet homme, Thomas Nuttall, qui va donc distinguer le mahonia du berbéris.
Lui aussi, qui a baptisé la plante de son nouveau nom, mahonia, en l'honneur de Mac Mahon.
Et son célèbre « J'y suis, j'y reste ».
Sauf que notre Mac Mahon à nous n'est pas celui qui deviendra président de la République française, mais plus modestement un pépiniériste américain. Eh oui, né en 1755 et mort en 1816. Trop tôt pour voir les premiers spécimens plantés en France en 1823.
Faut-il en déduire que les mahonias sont originaires d'Amérique ?
Alors déjà, il a été recensé près de 90 espèces originaires pour la plupart d'outre-Atlantique. L'état de l'Oregon, par exemple, en a fait son emblème. Mais il en existe aussi originaires du Japon, de Chine et de l'Himalaya, des arbustes qui seront introduits dans nos jardins plus tardivement vers 1845. Et pour vous faire plaisir, Patricia Martin, car je sais votre passion pour la littérature...
La journée de la gentillesse, c'était hier.
Eh ben non, justement. Ah ben, oh, c'est agréable. J'ai retrouvé une petite phrase, un extrait d'Edmond de Goncourt. Et il parle du mahonia superbement, une petite phrase toute simple. Alors, les mahonias du Japon à la feuille de cuir en trouvent un peu de jaune de leurs graines d'immortels.
Oh, c'est beau.
Edmond de Goncourt.
Edmond de Goncourt, lu par Alain Baraton.
Oui.
Alain, vos réponses aux questions, aux interrogations des auditeurs pour la main verte. Georges, par exemple, vous demande, existe-t-il des arbustes qui fleurissent en hiver?
Il y en a pas mal. Alors, ce sont généralement des floraisons un peu discrètes. Alors, je viens de le citer dans la chronique, le Mahonia Media X Charity, qui vraiment fleurit blanc, ce sont des grappes dressées assez étonnantes. Je pourrais vous parler vers février-mars du cognassier du Japon qui fleurit le plus souvent rose, le cornus mas, le cornouiller, qui va fleurir jaune en février-mars, là aussi de façon très hâtive. Un arbuste qu'on oublie trop souvent, le Viburnum fragrans. Vous vous doutez que s'il s'appelle
des grandes
fragrance.
Feuilles.
Des petites feuilles découpées et des petites fleurs roses.
Sent bon.
Mais qui sent délicieusement bon. Alors, la floraison est discrète, mais la floraison embaume le jardin. Je pourrais aussi vous parler, non pas de floraison, mais de fructification, comme le skimia et ses fruits décoratifs, et le piraconta. Alors, tout le monde connaît le piraconta. Eh bien, j'ai la chance d'avoir près de chez moi un piraconta qui n'a jamais été taillé, qui doit faire 4 ou 5 mètres de hauteur.
Ça pique?
Oui, ça pique beaucoup, hein. Idéal pour les haies vives. Parce que quand on veut se protéger les voisins, on peut mettre des arbustes persistants.
Vous, vous n'avez pas de voisins. Donc
non, c'est vrai.
Vous
je déteste.
Au château de Versailles, on n'a pas de voisins.
Bah,
voyons.
Ils sont... Mais c'est vrai qu'on peut parfois également vouloir se protéger des intrus et les haies piquantes peuvent être utiles. Et le piraconta dont je vous parle est envahi de fruits oranges d'une beauté à tomber à la renverse. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de plantes qui fleurissent en hiver. La mamélisse également fleurit merveilleusement. Donc, alors ce sont souvent des floraisons un petit peu discrètes, mais les fleurs sont tellement rares en hiver que quand elles sont même discrètes, elles sont très appréciées.
Carmen aimerait bien enlever quelques souches et autres rhizomes d'un mûrier de Chine, mais elle voudrait le faire sans polluer la terre, c'est possible?
Alors déjà, je ne vois pas le mûrier produire des rhizomes. Les rhizomes, je vous rappelle, sont des tiges souterraines. Non, il doit produire des rejets, tout simplement. Ce qu'il faut, quand il y a une plante qui rejette, ce qui est le cas fréquemment, par exemple avec le peuplier, eh bien, c'est prendre le sécateur, couper. Et tant que ça apparaît, il faut couper, il n'y a pas de méthode propre,
pas écologique. Pas la peine de mettre des produits toxiques.
Surtout pas. Mm. Vous savez, il faut savoir que les produits que l'on vend pour dévitaliser, par exemple les souches, ce sont des produits absorbés par le bois. Ce qui veut dire que si vous avez une racine qui fait 30 mètres de longueur, eh bien le produit va donc s'écouler sur 30 mètres de longueur dans la terre. On ne touche à rien, il faut de temps en temps garder raison, prendre les outils, les bêches, les sécateurs, couper, un coup de motoculteur, pourquoi pas, mais qu'on arrête de déverser sur la terre tout et n'importe quoi.
Béatrice a des aspects Lepidistra, oui. Dont le bout des feuilles devient jaune. Certaines feuilles sont presque blanches même, écrit-elle. Malgré un arrosage régulier et une exposition à l'ombre, ça ne évolue pas. Ça n'évolue pas. Que se passe-t-il ?
Alors, ce sont des plantes que vous connaissez de vue. Ce sont des plantes qu'on appelait autrefois les plantes de belle-mère. À ne pas confondre avec la langue de belle-mère. Ça, c'est le sens arrière. C'est autre chose. Là, ce sont des plantes rustiques. Ce sont des plantes vraiment dites vertes qui ont de grandes feuilles. Et comme toutes les plantes d'appartement qui produisent des grandes feuilles et qui ont l'extrémité qui jaunit et qui sèche, c'est souvent lié à la sécheresse. Toutes ces plantes vivent à l'origine dans les sous-bois des forêts tropicales. Ce sont donc des plantes qui ont l'habitude des régions extrêmement humides et sans soleil direct. Donc, si notre plante est en contact avec le soleil, si l'atmosphère de la maison est trop sèche, il y aura immanquablement ce phénomène à l'extrémité des feuilles. Donc, un petit coup de pulvérisateur et on en parle plus.
Et on n'en parle plus. Bernard a un nif qui a roussi et qui perd ses feuilles. Que faire ?
Rien, il va mourir. Ah. Oui, alors je suis un peu brutal en disant ça.
Mais quand c'est roux, c'est mort.
Mais non, mais en 40 ans...
Heureusement que vous n'êtes pas médecin.
Mais non, peut-être, mais j'ai au moins... Oui, non, moi je ferai quand même quelques dégâts. Non, en 40 ans de maison, je n'ai jamais vu une seule fois un conifère reverdir. Mmh. Certains arbres, effectivement, bénéficient de l'automne pour se refaire une santé et redémarrer au printemps. Mais quand un conifère commence à roussir, je ne connais pas de technique qui lui permette de repartir. Alors peut-être s'agit-il simplement là d'araignées rouges. Il faut aller voir dans le feuillage chez les petites bestioles rouges, d'où leur nom. Il faut éventuellement voir s'il n'y a pas des attaques cryptogamiques. Si l'écorce se soulève, ce sont des buprestes. Mais malheureusement, quand le mal est fait, c'est trop tard.
On va terminer avec un conseil pour ce dimanche.
Oh, j'ai adoré de Christophe, Gatineau. C'est publié chez Flammarion. Éloge du ver de terre. Notre futur dépend de son avenir. Eh bien, l'auteur explique pourquoi on a tout intérêt à faire attention à cette petite bestiole qui vit sous terre, parce qu'on en a besoin pour plus tard et même pour maintenant d'ailleurs. Donc, Éloge du ver de terre, c'est passionnant à lire.
Vous pouvez me redire le nom de l'auteur ?
Christophe Gatineau.
Merci Alain Baraton.
Vous êtes taquin.